l'exemplarité, anatomie d'une vertu politique.
Une affaire Epstein qui met en lumière les dérives morales de personnalités politiques. En France, une candidate à la présidentielle menacée d'inéligibilité et un ancien président multicondamné et un temps emprisonné. La question de l'exemplarité de ceux qui nous gouvernent est au cœur de l'actualité et de l'histoire. Depuis l'Antiquité, cette question hante en effet les démocraties.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le professeur de droit Éric Buge.
Épisode 6, 2013, l'ère de la transparence.
Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Jérôme Cahuzac à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2012. On achève avec ces propos mensongers notre conversation avec Éric Buge sur la transparence, sur l'exemplarité, sur cette vertu démocratique et politique. On peut dire là qu'on est à un point bas de la vertu politique.
Incontestablement, on peut dire qu'on est à un point bas.
Je vous sens un peu gêné.
Non, pas du tout, parce que, en fait, je suis gêné au sens où c'est pas seulement un point bas, c'est l'inverse même
de la vertu,
de l'exemplarité qu'on attendrait d'un gouvernant. Pourquoi est-ce que c'est l'inverse?
Oui, vous avez raison.
Pourquoi est-ce que c'est l'inverse même? Parce qu'on est vraiment dans les conditions opposées à ce que devrait être l'exemplarité des gouvernants. Pourquoi? D'une part, parce que le ministre du budget est celui qui est chargé de faire rentrer de l'argent. Et celui qui est responsable de la politique fiscale. Et donc l'exemplarité, c'est exactement l'inverse. C'est de dire que celui qui est responsable dans un secteur déterminé ne doit pas pouvoir être attaqué pour son comportement personnel dans ce secteur. Et là, il y a recouvrement total entre le manquement commis à titre personnel et les responsabilités.
On rappelle d'ailleurs quel est le manquement commis à titre personnel.
Et d'avoir eu un compte en Suisse pendant plusieurs décennies. Et l'intéressé, effectivement, a été in fine condamné au pénal pour ça. Donc on est à l'inverse même de ce qu'est la notion d'exemplarité. Et deuxièmement, on est aussi à l'inverse parce que l'enquête fiscale est placée sous l'autorité du ministre du budget. Oui. Et donc le ministre se retrouve à pouvoir potentiellement, l'administration fiscale est très compétente et très professionnelle, donc les choses ont été bien faites, mais le ministre, en apparence, était en position d'enquêter sur lui-même.
Juge et parti.
Et donc on est là à l'opposé de ce en quoi consiste une politique d'exemplarité. Donc c'est un cas tellement paroxystique que voilà, on est presque à l'inverse, presque caricatural.
Et puis il y a le mensonge.
Et il y a le mensonge, oui.
Devant l'Assemblée nationale.
Oui.
Quelle dimension ça ajoute dans votre démonstration, ça?
Ça ajoute une dimension publique. Le fait de mentir à l'Assemblée nationale, c'est en fait le fait de mentir à la France dans son ensemble.
Oui.
Et donc ça ajoute du discrédit à la parole politique. Et ça conduit à l'idée, qui sera traduite en loi quelques mois à peine plus tard, qu'on ne peut pas faire confiance aux institutions politiques pour contrôler l'intégrité des gouvernants. Mmh. D'où toute une série de lois en 2013. Alors, je vous ai dit dans un épisode précédent que le scandale du Watergate était l'entrée dans l'ère de l'exemplarité. En France, cette entrée dans l'ère de l'exemplarité, c'est l'affaire Cahuzac. C'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir des lois qui vont être plus contraignantes pour les gouvernants. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les déclarations de patrimoine et d'intérêt des ministres vont être rendues publiques. On va inscrire dans le droit la notion de conflit d'intérêt. On va créer une autorité indépendante, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, impartiale, composée pour l'essentiel de magistrats, qui va être chargée de réceptionner ces déclarations, de les contrôler, de vérifier qu'il n'y a pas d'enrichissement anormal durant les fonctions. On va interdire aux ministres de retrouver une activité dans le secteur privé à l'issue de leurs fonctions sans autorisation de la Haute Autorité. Donc il faut que la Haute Autorité autorise toute reprise d'activité. On va interdire aux ministres de gérer leur portefeuille d'action pendant leurs fonctions ministérielles. Et donc le législateur, à la suite de l'effet de souffle de l'affaire Cahuzac, va créer la Haute Autorité, va créer aussi le parquet national financier, un parquet spécialisé pour notamment les affaires politico-financières ou la délinquance financière, notamment dans les sphères politiques.
Quelle est la logique de déclarer ses revenus et son patrimoine? Quelle est la logique qui est derrière? Parce qu'on peut être richissime et avoir acquis de manière tout à fait légale sa fortune.
Alors, il y a une double logique. Vous savez peut-être que les premières déclarations de patrimoine au monde et dans leur, en tout cas dans leur version contemporaine, ont été votées par les conventionnels français en 1795. Mmh. En 1795, de manière étonnamment moderne,
oui.
Les conventionnels
précoce, hein.
Les conventionnels disent il y a une défiance déjà à l'époque vis-à-vis de la représentation politique, vis-à-vis de notre assemblée. On va s'astreindre à déclarer notre patrimoine et notre fortune telle qu'elle était au début de la Révolution et telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que c'est ça la logique des déclarations de patrimoine. C'est, on en fait une en début de mandat, on a fait une en fin de mandat et on compare. Et on voit si l'évolution du patrimoine peut être expliquée par les revenus licites perçus en mandat ou s'il y a eu visiblement un autre apport d'argent. Mmh. Donc les déclarations de patrimoine visent à contrôler l'absence d'enrichissement inexpliqué pendant le mandat.
Ah, c'est pas du tout pour savoir quand ils prennent le pouvoir où ils en sont. C'est pour faire une différence, une soustraction entre la fin et le début. Ah, ça, je l'ignorais.
Exactement. Et parce que les infractions à la propriété publique sont dures à caractériser. L'infraction de corruption, par exemple, par définition, une infraction dissimulée. On ne va pas se vanter d'avoir reçu un dessous de table. Et donc, il faut des sources, des investigations qui sont longues. Par contre, faire la photo du patrimoine au début, faire la photo du patrimoine à la fin et les comparer, c'est une manière de voir s'il y a eu un enrichissement illicite. Mmh. Or, bien sûr, la procédure n'est efficace que si on est certain de la véracité de la déclaration initiale et de la déclaration finale. Et précisément, les lois du 11 octobre 2013, après l'affaire Cahuzac, donnent à la Haute Autorité la capacité de s'assurer de la véracité de la déclaration initiale et de la déclaration finale.
Comment ?
Alors, par un certain nombre de mécanismes, notamment, la Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale tous les éléments en sa possession. Donc, si vous avez une propriété non déclarée en France, la Haute Autorité va le savoir. Elle peut aussi engager des procédures d'entraide internationale pour vérifier que vous n'avez pas dissimulé une partie de votre patrimoine.
Y a-t-il eu des cas de politiques qui ont été sanctionnés par l'action de la Haute Autorité ?
Oui, tout à fait. Alors, il faudrait voir avec les responsables de la Haute Autorité eux-mêmes, mais il y a eu plusieurs dizaines de responsables publics qui ont été renvoyés devant des juridictions pénales du fait de déclarations inexactes ou de la variation inexpliquée de leur patrimoine. Et un certain nombre de condamnations ont été prononcées. Et encore une fois, qui sont des infractions beaucoup plus simples à caractériser que des infractions de trafic d'influence, de corruption, qui sont par essence dissimulées.
Il y a une focalisation sur les questions financières, moins sur les questions des violences sexistes, sexuelles par exemple. Est-ce que ça veut dire que la transparence est tout de même plus ou moins opaque quand il s'agit des politiques ?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la transparence se fait de toute façon au détriment des responsables politiques.
Oui.
Donc, dire que la transparence est opaque, de mon point de vue, un peu un raccourci, puisque nécessairement la transparence se fait au détriment des responsables politiques. Peut-être qu'on pourrait davantage dire que la transparence se focalise sur la probité économique et financière. On ne va pas aller, comme le faisaient les Grecs, on a vu ça dans le premier épisode, jusqu'à demander si on se comporte bien avec sa famille. Si on est un bon parent, on commence à demander si on paye les impôts. Ça, c'est la probité économique et financière.
Ouais.
Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que le champ contemporain des règles d'exemplarité est beaucoup plus étroit que ce qu'il était.
Mais pourquoi ?
Parce que il y a d'une part le droit au respect de la vie privée, qui vaut quand même aussi pour les gouvernants, qui vaut pour tout un chacun. Et puis, il faut bien se demander ce qui est utile de savoir aux citoyens. Certainement que pour le citoyen, savoir que ces gouvernants ne profitent pas de leur mandat politique pour s'enrichir est une donnée de première importance. Par contre, savoir quelle est leur relation personnelle, des informations un peu plus people, ont peut-être moins d'intérêt et donc n'ont pas vocation à intégrer les politiques de transparence.
On a beaucoup parlé dans l'épisode précédent de la question de l'immunité, de l'impunité. Elle existe encore, l'immunité.
Oui.
Mais sauf qu'elle est plus encadrée, plus facile à faire sauter. Comment est-ce qu'elle a évolué dans les années qui ont suivi 2013 ?
Alors, l'immunité avait déjà été réformée à la suite des premiers grands scandales politico-financiers, l'affaire Urba, notamment à la fin des années 1980. Puis, au fil des années 1990, l'actualité politique devient égrenée par les scandales politico-financiers.
Notamment sur le financement des partis politiques.
Sous la conjonction des deux facteurs qu'on a déjà évoqués, qui sont d'une part le rôle de la presse et d'autre part le rôle des juges qui s'affirment. Donc ça met les scandales à l'ordre du jour. Et donc sur la question de l'immunité, c'est à ce moment-là qu'elle a été réformée. Il y a eu une réforme constitutionnelle en 1995 pour faciliter la levée de l'immunité. Lorsqu'un juge veut mettre en garde à vue, par exemple, un responsable politique, il doit en faire préalablement la demande au bureau de l'Assemblée dont il est membre. Le bureau accorde la levée d'immunité et le juge peut procéder aux investigations.
Est-ce que toute cette... Parce qu'on arrive bientôt au bout de notre conversation, est-ce que ce long chemin vers plus d'exemplarité, un chemin sinueux avec des éclipses, longues éclipses, est-ce que c'est de nature à renforcer la confiance en la démocratie, ou au contraire, et j'y reviens parce que c'est une chose importante à mon avis, en générer une forme de défiance aussi?
Alors, c'est une question qui est une question difficile. Incontestablement, les législateurs, lorsqu'ils édifient ces institutions particulières que sont les institutions de la vertu ou les institutions de l'exemplarité, visent à restaurer la confiance. Si vous prenez les lois américaines dont on a parlé en 1978, les lois Cahuzac, vous prenez les débats parlementaires, l'objectif numéro un, c'est de restaurer une confiance qui est abîmée par les affaires.
Par un scandale.
Voilà, par les affaires politico-financières.
Mais la suspicion généralisée est dangereuse aussi, non ?
Et la suspicion généralisée est tout à fait dangereuse, et c'est pour ça que le législateur cherche à restaurer une forme de confiance. Or, jusqu'à présent, dans les grandes démocraties, le niveau de défiance a quand même tendance à plutôt progresser.
Et on
Malgré ces lois. Mais on peut... Un des éléments d'explication, c'est notamment le fait que plus on va contrôler les gouvernants, plus on va trouver d'éléments à charge. Quand on ne regarde pas, on ne trouve pas matière à scandale. Quand on crée des institutions dont c'est le métier de regarder, il arrive que de temps en temps, elle trouve des choses. Et par ailleurs, les attentes de l'opinion publique vis-à-vis des gouvernants progressent également. Des comportements sont aujourd'hui reprochés à un certain nombre de dirigeants politiques qui n'auraient pas du tout donné lieu à scandale dans les années 1960-1970. Donc la barre éthique, pour reprendre l'expression d'un politiste canadien, la barre éthique progresse aussi. Les attentes des gouvernés vis-à-vis de leurs gouvernants progressent, et c'est un processus qui conduit à des institutions de plus en plus fortes en matière d'exemplarité.
Mais aussi peut-être parfois à des gens qui ne veulent plus se lancer en politique.
Complètement. Et c'est un curseur qu'il faut savoir positionner avec soin. Voilà, l'un des nœuds du problème étant aussi la compatibilité entre ces institutions de l'exemplarité et la légitimité qui, dans nos systèmes démocratiques, vient de l'élection. Donc, c'est la vieille question que s'étaient posée les révolutionnaires. Qui est légitime pour parler contre le peuple, au cas échéant, contre les électeurs? Donc, c'est une autre question difficile, en plus de celle du fait de freiner des vocations politiques ou de dissuader des vocations politiques.
Sujet hyper contemporain de la démocratie libérale ou illibérale. Je suis élu, donc je fais ce que je veux. J'ai une dernière petite question, plus personnelle peut-être. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce point-là, à l'exemplarité?
Alors, j'ai travaillé moi-même à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, et donc ça a été le début de ma réflexion à ce sujet. Et j'avais lu un certain nombre d'articles, notamment juridiques, qui disaient « l'exemplarité, vertu aristocratique ». Pourquoi vertu aristocratique? Parce qu'on veut que les gouvernants soient meilleurs que les gouvernés. On exige plus des gouvernants que des gouvernés. Ça, disaient les auteurs, c'est d'inspiration aristocratique. On veut que les meilleurs nous gouvernent.
Donc pas démocratique.
Et pas démocratique. Et spontanément, j'étais assez fondamentalement en désaccord avec cette approche. Et donc j'ai essayé de voir, dans le cas des institutions athéniennes d'abord, ce qu'il en était. Et j'ai vu qu'au contraire, on contrôlait de manière très massive les gouvernants. Si bien qu'ensuite, en tirant le fil, j'ai essayé de reconstituer sur la longue durée cette histoire de l'exemplarité en politique.
Cette histoire, c'est un livre, L'éclipse de la vertu, une histoire de l'exemplarité des gouvernants en démocratie, aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Éric Buch, de nous avoir éclairé sur cette vertu vertueuse qui est l'exemplarité en politique depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. L'exemplarité, anatomie d'une vertu politique, est un podcast original de France Inter.